Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et je démarre immédiatement par les choses vues récemment, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Mais, ok. Style sur Prime Video, 6 fois 50 minutes, thriller, hein, complètement. Avec Sophie Turner, que personnellement j'ai découvert dans Game of Thrones, où elle m'avait beaucoup impressionné par son jeu. Et là, elle est à nouveau excellente. À ses côtés, on a Jacob Fortune Lloyd, voilà, que je ne connaissais pas vraiment, même si ça me disait quelque chose. Et quand j'ai regardé, oui, il y a quelques films où il a joué que j'ai vu, mais même en renvoyant les noms, quoi, je me suis dit, mais il jouait quoi dans ce film? Bref. Là, par contre, bah, il a un rôle très important. Et il est très très bon. Le pitch, je vous le fais immédiatement sans plus attendre. Zara, employée de bureau d'une société d'investissement de fonds de pension, voit sa journée bouleversée lorsque des voleurs font irruption armée et exigent qu'elle les aide à voler des milliards de livres sterling, 4 milliards pour être plus précis, sur les retraites de citoyens ordinaires. Alors tout ça se passe en Angleterre, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas. J'ai regardé tout ça avec grand plaisir, tout en ayant conscience que j'aurais tout oublié dans 2 mois. Alors les qualités, c'est extrêmement rapide, il se passe beaucoup de choses, la réal est cool, les acteurs, donc comme je l'ai dit, sont excellents, tous, vraiment. On s'emmerde pas, hein, du coup, mais... un gros souci pour moi, c'est que l'intrigue se prend un peu les pieds dans le tapis, niveau plausibilité, cohérence, enfin crédibilité même, hein, alors d'action et d'événements, les deux. Voilà, les derniers épisodes, enfin au moins les deux derniers, c'est pas mauvais, hein, mais le début, comment dire, le début est tellement bien ficelé, bien écrit, t'y crois, quoi, vers le troisième et les deux derniers épisodes, tu te rends compte que oui, c'est... genre, ta gueule, c'est magique. Ouais, un petit peu de ça. Ou vraiment des comportements de personnages où... Bref. Ah, voilà, c'est pas... une fois de plus, c'est vraiment sympa. Ça mérite d'être vu, je trouve. Mais ce n'est pas très, très, très bon. Au niveau, voilà, originalité, ça n'a pas marqué l'année. On va pas dire c'est une des mini-séries événements de l'année. Non. Et c'est dommage, parce que je pense que ça aurait pu l'être, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est tellement malin, notamment sur les 3 premiers épisodes, que tu te prends à espérer un truc beaucoup plus ambitieux que ça ne l'est finalement, et où pour que tout retombe sur ses pattes, il y a vraiment des choix faits par certains personnages principaux, où tu te dis, dans la vraie vie, je n'y crois pas du tout que la personne ferait ces choix-là. Donc bon, un petit peu dommage. Qu'est-ce que je veux d'autre? Alors, par contre, c'est un chef-d'œuvre intersidéral comparé à Chien 51. Ouïouïouïouïouï. Réalisé, attendez, j'avais noté Cédric Jiménez, bien évidemment, à qui on doit Bac Nord, Novembre, La French. Des films que j'ai vraiment appréciés personnellement. Trouvé bien foutu, c'était cool, quoi. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, pour moi, le gros problème, il est au niveau de l'écriture, déjà, du scénar, quoi. J'ai oublié de vous dire. C'est donc avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. Aucun des deux n'est très bon, on va pas se mentir. Alors Adèle, moi, j'ai jamais été super fan, mais voilà. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle, Alma, a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Safia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Donc un buddy movie avec une pseudo love story tellement à chier et tellement pas crédible. Mais si c'était que ça le problème. Alors, c'est beau, j'allais dire, ça dépend des séquences. Mais il y a des séquences qui sont super belles. Voilà, le mec il sait faire, hein, de toute façon, c'est pas une surprise. Néanmoins, le concept qui pouvait être intéressant, je trouve, de sections comme ça, avec des mini frontières, enfin on pourrait dire, hein, dans Paris, pour séparer la population, afin d'en fait de faire chuter la criminalité. Donc effectivement, voilà, on a cette intelligence artificielle qui est arrivée à la conclusion que le problème, c'est finalement le mélange des populations qui sont pas du tout au même standing, enfin au même niveau de vie, et que si on les sépare de force, enfin si on protège les riches, en gros, hein, c'est un peu ça, et qu'on isole les pauvres, tout va bien se passer. Et effectivement, ça clairement, enfin c'est ce qu'on voit au début du film, ça marche, sauf que ça marche à quel prix, quoi. Voilà. Et après, donc très rapidement, hein, dès le début du film, on a ce mec qui est tué, et c'est, on dirait un mauvais Luc Besson, j'aime pas Luc Besson, donc, mais là c'est pire, c'est vraiment, ça aurait pu être un truc à la cinquième élément, mais bah, vraiment du pauvre, hein, évidemment, ne me jetez pas des tomates pourries, enfin pas tout de suite. Mais il y a un côté, il y a une ambition un peu science-fiction, apocalyptique, etc. à la Besson, enfin qui m'a fait penser à ça. Sauf que là, bah, rien ne va vraiment. Alors quelques scènes d'énormes malaises, hein, notamment un truc de karaoké. Et tu te demandes en plus vraiment à quoi ça sert dans le film, tu vois. C'est pour, est-ce que ça montre qu'il se rapproche et tout? Je pense que c'est ça, mais c'est complètement raté. Vraiment, oh merde, bon, et eh ben c'était pas bon, hein. Voilà, qu'est-ce que tu... voilà, c'était vraiment pas bon, mais pas bon, avec beaucoup de scènes quand même où tu ris de malaise, hein. Vraiment, Gilles Lelouch, c'est quand même très compliqué, hein. Vraiment, le jeu n'est pas à la hauteur de, bah si, en fait, du coup, si, oui, si, bravo, Gilles Lelouch, chapeau bas, totale cohérence avec la qualité de l'intrigue. Ah, putain, qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également, ah oui, alors ça par contre, très très chouette, un documentaire de la série des docu Arte, là, qui font tous un peu moins d'une heure, sur un tueur si proche. Voilà, le célèbre livre d'Anne Rule, dont j'ai déjà parlé plein de fois en JDV, le livre d'ailleurs qui m'a fait découvrir Anne Rule. Anne Rule, je précise, j'ai lu absolument tous ses bouquins, c'est des tueries sans exception. Alors, je vous fais le petit pitch, lorsqu'elle rencontre Ted Bundy au début des années 70, dans un centre d'écoute pour personnes en détresse, où elle travaille à temps partiel, Anne Rule est une ancienne policière de 40 ans qui essaie de percer comme journaliste d'investigation spécialisée dans les histoires criminelles. En attendant, elle publie des articles sous pseudonyme dans des magazines populaires du type détective pour financer son quotidien de mère divorcée. Ted Bundy, lui, est un jeune homme charmant, plein d'attention et d'à-propos, qui ambitionne de devenir avocat. Anne Rule devient son ami jusqu'à ce qu'il cesse de donner des nouvelles pendant plusieurs mois. Lorsqu'il réapparaît dans sa vie, c'est en tant que suspect dans plusieurs affaires d'enlèvement et de meurtre. Bien qu'elle soit l'une des premières personnes à identifier son portrait robot, Anne ne peut alors croire à sa culpabilité. Le choc que lui cause son arrestation va la pousser à entreprendre un livre, un tueur si proche donc, le premier qu'elle signe de son propre nom. Voilà, donc c'est un docu sur la genèse en fait, hein, de ce bouquin. Le phénomène que ça a été, hein, quand même on en parle un peu également, et surtout les preuves qu'elle a vécues, voilà, à titre personnel, le déchirement que ça a été pour elle, et c'est super intéressant. Alors bon, on n'apprend rien, je vais être tout à fait sincère, on a des interviews de quelques romancières, psy ou je sais plus quoi, enfin... Bon, qui donne des avis d'une pertinence très basique. Enfin, voilà, il n'y a pas un moment où tu te dis « Oh, wow, putain ! Ah, mais oui ! Ah, mais non, mais genre, purée, vache, incroyable, j'avais pas pensé à ça. » Non, c'est un petit peu des portes ouvertes qui sont enfoncées, mais c'est pas gênant non plus. Et puis, pour certaines personnes qui connaîtraient pas très bien Anne Rule, quoi, comme ça leur explique un petit peu aussi son parcours, donc ça c'est plutôt cool. Au final, j'ai beaucoup aimé, hein, quelques images d'archives très cool. Bon, la Ted Bundy, on l'a tout vu, hein, mais on a quelques images d'archives d'interviews télévisées d'Anne Rule de l'époque, et ça c'est assez intéressant. Et puis... on sent sa fragilité, c'est ça qui est drôle, enfin c'est drôle, c'est touchant parce que c'est une femme très 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 forte, hein. Enfin, elle a écrit des bouquins où réellement elle mettait parfois, j'allais dire sa vie en jeu, ouais quasiment quoi, vraiment. Par rapport à des enquêtes, tout ça, des culpabilités qui n'étaient pas encore reconnues forcément par la justice au moment de la publication de certains de ses livres, où elle parle donc exclusivement de faits réels, hein. Et parfois de faire elle en cours. Enfin, tous les livres d'Anne Rule, c'est passionnant, déjà, à la base. Et donc voilà, donc petit reportage, sorti avant-hier, je crois, un truc comme ça, que je vous recommande totalement, disponible gratuitement, hein, sur Arte et sur la chaîne YouTube de Arte. Et je vais conclure avec La Confession, film d'horreur fantastique, que j'ai trouvé sur un site Corsair, je sais pas du tout quand ça sort, si ça sort chez nous. Et sincèrement, espérons que non. je vous fais le pitch tout de suite. Une musicienne, ouais, en fait, c'est une pop star. C'est tellement ridicule dès le début. Une musicienne retourne dans la maison de son enfance et y découvre l'enregistrement de la confession de meurtre de son père défunt, réalisée pour repousser une force maléfique. Alors que le comportement de son fils devient de plus en plus troublant, elle lutte pour mettre fin à cette malédiction. À la limite, en lisant ça, t'as déjà compris que ça va schlinguer de ouf. C'est de la merde. J'ai même pas noté le casting, hein. Tellement j'étais motivé. J'étais motivé à faire convenablement mon travail. Mais c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment de la merde. Donc vous pouvez l'éviter. Personne ne joue bien. En fait, le mec qui joue le gamin, ça va. Mais à l'écriture... Il n'y a vraiment aucun effort qui est fait, là, non, sincèrement. Aucun effort. Non, tu ne fais aucun effort. Aucun. Non, même à la photo, c'est moche. C'est pas beau. Aïe, 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 aïe. Donc, si vous voyez passer la confession, vous pouvez éviter de le regarder. Là, il s'ajoute à la longue liste, je n'en doute pas, de films de possession complètement moisis qu'on va se taper en 2026, comme on en a eu une tripotée en 2025, et c'était déjà pareil en 2024. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment une tendance qui fait chier. Je trouve. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Ta réaction au teaser des Maîtres de l'Univers. Ça a l'air d'être une belle merde. Hein. Alors, vraiment, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit, quand j'avais cité ce film dans mes attentes de 2026, mais pas mes attentes de grand film, hein, mais mes attentes de film fun et machin, ils m'avaient dit, t'es sûr ? Je suis plus sûr du tout, non. Enfin, je suis sûr que non, plutôt. Voilà, ça a vraiment l'air à chier de ouf. Et en plus, je suis très étonné que l'intrigue soit aussi proche de ce qu'avait fait déjà, en fait, le cinéma dans les années 80 avec le Dolph Lundgren. C'est-à-dire qu'on est à nouveau le monde réel d'aujourd'hui et Eternia, enfin... aucun effort, enfin je sais pas, je suis très surpris, hein, vraiment. Et alors le côté humoristique est reproduit, et là pareil, hein, je comprends pas, c'était quand même pas un dessin animé comique, hein, qu'est-ce qui se passe en fait, je sais pas. Donc là c'est que des vannes de merde dans le teaser, hein, et on a compris que ça va, ça va loucher vers cette espèce de trucs hybrides, oui et non, hein, un peu comme le... C'était quoi le Thor merde, qui était à fond humour, décalé, je vous mettrai le truc, bref, ou les Gardiens de la Galaxie, mais peut-être, à la limite, le premier était quand même... Enfin, là, j'ai l'impression que c'est pire, que ça va être pire. Je précise, pendant que j'y suis, que moi, les adaptations de dessins animés inadaptables, enfin, parce qu'il y en a qui vont me dire, non mais comment tu veux adapter les Maîtres de l'Univers, sérieusement, fidèlement, bah, c'est ultra faisable. Enfin, de tout temps, on a adapté des dessins animés ringards en film au premier degré. Là, clairement, ça assume pas le projet, et donc c'est en mode, non, mais on se prend pas au sérieux, hein, voilà. Moi, ça me fait chier, quoi, en fait. Du coup, surtout, ça ne m'intéresse pas, du coup. Moi, ce que je veux voir, c'est les Maîtres de l'Univers en vrai, quoi. Mais voilà. Bref, oui, je disais, moi j'adore, aucune fierté, le premier film Tortue Ninja. Donc, oui, et c'est. on est d'accord. Mais j'adore ce film. Donc, pour moi, c'est. Y a des, et puis, je pense à ce film-là, mais il y en a d'autres, hein, de What the Fuck complet, mais qui se tiennent dans leur axe, quoi. Là, puis alors, c'est moche, hein. Waouh, le ralenti sur le mec avec qui saute dans les airs qu'on a vu un milliard de fucking fois. Le tigre là, en CGI moisi de ouf. J'ai pas été voir le budget de ce film. Les effets ont l'air moches, hein. Ça a l'air ultra moche. Tu crois pas deux secondes, quoi. Donc non, ça me semble assez compliqué. Je suis pas certain que ça me donne un quelconque plaisir. Alors, oui, et le mec est pas musclé. Musclor, enfin, il est baraque, quoi, mais limite il se fait démonter par Balboa, quoi. Enfin, c'est ça, c'est Musclor, ça. Rien ne va. Et même la coupe, ils ont pas assumé. Donc il a un petit trait au milieu. Ils ont rien assumé. Donc voilà, pour moi c'est de la merde. Allez, vas-y, tu m'énerves. Dans quelle attitude aimerais-tu que l'on te conserve si pour après ton grand départ tu avais décidé de n'être ni enterré ni incinéré, mais empaillé. Putain, oh, vous avez des questions, les gars. Ça fait des mois que je n'ose t'envoyer cette question. Si tu veux, tu peux me bannir, ce sera mérité. Ah non, j'adore. Quelle attitude ? Oh, une attitude un peu de bouffon, en mode... C'est la pause à la Joey là, pour les fans de Friends. Les rêves de ouf! Comme ça. Ce serait tellement pas moi, ça me ferait rire. Ouais, l'attitude, ce serait ça. Peut-être même un peu comme ça. Et puis, et les fringues, mes fringues de bouffon. Hein, bon. Voilà. Ah oh, putain. As-tu le permis de conduire? Et si oui, aimes-tu conduire? Aimes-tu les belles voitures? J'ai le permis, mais depuis peu. Hein. J'ai passé le permis quand j'ai quitté Paris. Donc, il y a 6 ans. Enfin, ouais, 6 ans, tout comme ça. Quand on est arrivé près du Mans, tout d'un coup, il était très important de pouvoir se déplacer de façon autonome, y compris s'il y a une urgence ou des choses comme ça. Quand tu es parisien, ce qui a été le cas toute ma vie, enfin, ou en tout cas que tu es dans des grandes villes, parce que à part ça, sinon j'étais à Londres, mais c'était des grandes villes, pas du tout besoin de conduire. C'est même, tu vas plus vite en fait en métro qu'en voiture, bien souvent. Donc bref, je n'ai jamais passé mon permis de conduire. Je pensais éventuellement, enfin je m'étais dit bon bref, ça se fera pas et c'était pas. Alors, enfin j'allais dire c'est pas grave. En fait, j'étais un peu frustré parce que je me disais, ah je suis sûr que c'est cool de conduire. Mais bref. Et quand on est arrivé ici, donc je me suis inscrit à une auto-école. Autour de moi, on m'a un peu dit ouh. Attends, j'avais quel âge? J'avais 48 peut-être, un truc comme ça. Donc vieux. Et voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit passer le permis quand t'es plus jeune, c'est beaucoup plus compliqué parce que apprendre les réflexes, même de gestes, tout ça, ça se fait plus facilement quand tu es jeune, en fait, entre 18 et 26 ans, j'en sais rien. Et au final, donc je m'étais préparé à ce que ce soit pas hyper easy, quoi. Et. Tout s'est super bien passé, j'ai très très bon souvenir de l'auto-école où j'étais, j'ai eu aucun souci en fait, tout s'est très bien déroulé, enfin je sais pas comment dire, j'ai fait mes heures mais je n'ai pas fait plus que ce qu'il fallait pour pas froisser l'inspecteur, donc je sais plus combien mais enfin voilà, le minimum, je crois plus 2 ou 3, parce qu'ils m'avaient dit ils aiment bien, enfin voilà quoi. Que t'aies fait un peu plus d'heures que le minimum légal, ce que je peux comprendre. Et d'ailleurs, je suis très content de les avoir fait, parce que ça m'a. Du coup, c'était un peu pour juste rouler, quoi. Et voilà, comment dire, pratiquer, en fait, tout simplement. Et ça m'a bien aidé quand même, quoi. Ouais, l'examen s'est super bien passé. J'ai eu le permis sans aucun problème du premier coup. Et idem pour le code, d'ailleurs, on m'avait dit le code. Et puis le code, je l'ai eu. Je crois que j'ai presque pas fait de faute. Enfin. Bref, donc et j'adore conduire. Alors, voilà. Donc j'ai pas comment dire, développé une passion pour les voitures, tout ça, parce que tu me dis tu aimes les belles voitures. Alors ouais, j'adore les belles voitures, mais j'adorais les belles voitures déjà quand j'étais pas conducteur, enfin quand j'avais pas de permis en tant qu'objet. Après, ce que moi j'appelle belle voiture, c'est pas forcément ce que les autres appellent belle voiture. Je tiens à le préciser. Moi, les belles bagnoles pour moi, c'est les bagnoles américaines des années 70. Début 80, quand je dis belle voiture, c'est les Mustang, des Corvettes, des trucs comme ça. Là, pour moi, c'est des objets de ouf, quoi. Bref. Après, là où je suis, comme je l'ai déjà dit en 5JDV, on croise beaucoup de voitures de dingue. Hein. Vraiment des Lamborghini, beaucoup de Ferrari, des trucs comme ça. Et puis des énormes pick-up Ford américains en soirée dans Landman. Je sais même pas comment ils font pour prendre certaines rues ici. Et puis, beaucoup de belles bagnoles, de toute façon. Mais y compris des bagnoles de collection, tout ça, tout ça. Donc, en tout cas, oui, j'adore conduire. J'aimerais bien avoir de belles voitures. Après, le problème d'avoir une belle bagnole, c'est aussi sur quelle route tu es, enfin, pour en profiter. Voilà. Il y a des pays ou des villes où avoir une belle bagnole, ça a du sens parce que tu vas t'éclater. Là. Là, je ne sais pas si on s'éclate vraiment en ayant une très belle voiture. T'as le plaisir d'être dedans, mais au niveau de rouler, tout ça, je ne sais pas. En tout cas, je fais partie des gens qui ont donc passé leur permis de conduire après 45 ans, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour qui ça a été finalement ultra fastoche, quoi. Enfin, il n'y avait vraiment eu aucun souci. Et je suis tellement heureux, par contre, d'avoir mon permis. D'autant que c'est quand même une bonne chose quand tu n'es pas en centre-ville, je veux dire. S'il y a un problème même avec quelqu'un, je peux aller, je peux conduire un autre véhicule. Enfin, c'est quand même important. J'ai revu Emprise de Bill Paxton, glaçant, je pense que tu dois connaître. Sinon, chez James Ellroy, je te conseille Un tueur sur la route avec une scène impliquant Charles Manson, incroyable. Je connais pas du tout. Alors, James Ellroy, j'en ai lu tellement peu et il y a tellement longtemps. Mais du coup, je vais me noter ça sur un coin des millions de livres qu'il faut que je lise. Concernant Emprise, je l'avais vu à l'époque, ça m'avait ultra impressionné. Notamment sur la relation entre ce père qui paraît normal et dont la folie est terrifiante et incroyablement bien interprétée. et la menace sur ces deux gamins, la relation entre les deux frères, tout ça, je l'ai revu, hein, mais je l'ai revu il y a longtemps, je réalise, je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, notamment sur les croyances, choses comme ça, enfin la frontière assez fine entre foi, folie, quoi. Remarquable, remarquable film, j'adore ce film, Emprise. À ne pas confondre avec L'Emprise, dont j'ai parlé, je crois, dans le précédent JDV. Est-ce que tu as des plaisirs coupables niveau variété française? Est-ce qu'il y a des chansons ringardes de ouf que tu kiffes? Moi, par exemple, j'adore le death metal, mais je suis également capable de chialer sur du Jean-Jacques Goldman. Inutile de lire cette précision dans ta vidéo si tu me réponds. Oups! Non, mais tu sais très bien qu'ici, il n'y a pas de place pour l'ego, déjà. Alors, moi, en plus, je comprends pas trop ton, comment dire, chanson ringarde et tu mets Goldman dedans, mais tu cherches, là, par contre, tu cherches la merde. Donc, que te dire? Alors, moi, par contre, niveau plaisir coupable en variété française, alors déjà, je t'ai sorti deux trucs parce que, alors moi, Goldman, j'en ai déjà parlé, hein, et d'ailleurs, ceux qui ont vu ma vidéo sur mon parcours musical, sauront que j'ai fait une reprise de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Donc, moi, les trois premiers albums de Jean-Jacques, pour moi, c'est de très, très bons disques. C'est par la suite que j'ai complètement décroché. Sans trouver que c'était mauvais, hein, Jean-Jacques Goldman, j'ai pas trouvé que c'était nul, mais j'aime pas du tout. Enfin, c'est-à-dire c'est devenu un truc pépère, papy, mamie, machin, assez rapidement, je veux dire, qui, moi, me parle pas du tout, quoi. Les trois premiers albums, où même son chant est très différent, et d'ailleurs, il le dit, hein, il dit il déteste sa façon de chanter sur ses trois premiers disques, où il trouve qu'il est trop nasillard, trop aigu, trop il monte trop, enfin, etc. Moi, j'adore, je trouve ça tellement à vif, quoi. Et ce que j'aime surtout beaucoup aussi, c'est les thématiques, les textes, et les mélodies très... Enfin, on n'est pas loin de la New Wave très souvent, et c'est assez sombre. Moi, j'ai découvert Jean-Jacques Goldman quand j'étais gamin avec Il suffira d'un signe. Waouh, la violence de cette chanson, quoi. Et je l'adore. Alors, en vinyle, il me reste, j'en avais, alors j'ai racheté par contre, hein, j'ai les trois premiers albums de Goldman, je les ai en CD pour te dire. Mais celui-là, le vinyle a survécu. Et voilà, et j'aime beaucoup ce disque, donc voilà. Allez, ça c'est fait. Et puisqu'on en est là, je sais que en plaisir coupable, pour la plupart des gens qui ont moins de je ne sais quel âge, ou même des gens tout court, Sardou, c'est un plaisir coupable, par exemple. Voilà, moi, Sardou, ça, j'ai pris celui-là parce que c'est mon album préféré, mais j'en ai en vinyle, j'en ai beaucoup, et en CD, j'en ai encore plus. Alors, par contre, ça s'arrête assez tôt. C'est-à-dire que moi, Sardou, c'est dans les années 70, début 80. Après, j'ai complètement décroché, parce que lui-même, je trouve, est parti sur un autre chemin. Variété française, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'adore Indochine. Je pense que c'est vraiment un plaisir ultra coupable pour beaucoup de l'élite, un télo, etc. Parce que quand tu vois les chiffres de vente d'Indochine... Et même leur public, en fait, le public, il n'y a pas de public, Indochine, c'est incroyable, c'est un peu comme certains artistes, enfin, c'est-à-dire que c'est tellement, de toute façon, quand tu dépasses certains chiffres de vente, ton public, c'est tout le monde, en fait, donc il y a de tout, mais vraiment de tout, hein. Et c'est ça qui est cool, bref, mais bon, moi, tout ça, j'ai pas de, en fait, ce que je cherche, c'est un truc que j'aimerais, mais où j'ai un peu honte, moi, j'ai un peu honte, pas que quelqu'un d'autre me dise, ah, la honte, je m'en bats les couilles, mais... Un truc où moi-même je suis là, ouais, bon, allez, j'ai conscience que bon. Et là, je suis sûr qu'il y a des trucs dans des années 80 où je sais que c'est pas brillant, mais ouais, je m'en fous, j'adore. Mais je sais que c'est un plaisir coupable. Ah, par exemple, j'aimais beaucoup Good Lux. Je crois même pas qu'ils ont réussi à sortir un album. Je crois qu'ils ont fait que quelques 45 tours et c'est hop, au revoir. Moi, j'aimais beaucoup. Alors, pas tellement Les Yeux de Laura, qui était quand même je pense que c'est la chanson qui a le mieux marché. Mais Omaha Beach, j'ai le 45 tours, Omaha Beach. Et il y avait un maxi aussi, bon, c'était très influencé Farmer Boutonnat, hein, mais très très très. Mais c'était cool quand même, moi j'aimais bien. Et je suis certain qu'il y a d'autres trucs, de variété française. Alors par contre, c'est que des vieux trucs, hein, parce que moi, vraiment, la variété française, je lui vomis dessus, enfin à part 3-4 artistes encore en activité, je veux dire, je n'aime rien, rien de rien, quoi. Ah, voilà, j'ai pas vraiment d'exemple, mais ce que je peux te dire, c'est que chialer sur du Goldman, j'en serais presque capable avec, sur les trois premiers albums, mais il y a des chansons qui sont ultra tristes de Goldman, mais elles sont tristes et violentes. Envole-moi, par exemple, je sais que, d'ailleurs, quand c'est sorti, je devais être pré-ado, ou même encore un peu enfant, peut-être, je sentais tellement le désespoir dans le chant et les textes et tout, Envole-moi, c'est... je pourrais chialer. Enfin, j'aurais pu chialer. Il y avait Encore un matin aussi que je trouvais la mélodie, je la trouvais super triste, enfin super mélancolique. Et en même temps, elle était violente. C'est ce Goldman-là, moi, que j'ai aimé. Le Goldman de Encore un matin, Envole-moi et Suffire d'un signe. Enfin, il y en avait d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres de cette époque-là. J'imagine que tu as déjà vu le film Les Évadés de l'espace qui a inspiré Sankokai. Je viens de le découvrir car Tarantino a dit être adepte et marqué à vie par ce film. Personnellement, j'ai bien rigolé, mais c'est pas bon. Je trouve, toi, tu en penses quoi? C'est irregardable. Moi, je l'avais. Je l'ai découvert il y a très longtemps maintenant. Oh la vache. C'était ignoble, ignoble. Une purge absolue. Alors, je précise pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Que effectivement, il y a même eu une réédition. Il y a eu une réédition DVD où il marquait Sankokai et en dessous Les Évadés de l'espace pour faire vraiment croire, en mettant d'ailleurs un visuel des seuls trucs en commun, genre le vaisseau, tu vois. Mais il n'y a aucun lien entre ces deux films, ni d'un point de vue des personnages, ni d'un point de vue de l'histoire. Mais aucun rapport, aucun lien, aucun truc commun, ça n'a rien à voir. Ce sont deux projets totalement différents. C'est juste que pour la série Sankokai, ils ont, à des fins d'économie, récupéré des effets, donc des très très courtes séquences d'effets spéciaux du film Les Évadés de l'espace et du matériel. Voilà, vaisseaux, robots, des trucs comme ça, costumes, enfin, c'est du matos en fait. Mais sinon, aucun lien commun. Donc vous imaginez pas qu'en voyant Les Évadés de l'espace, c'est le préquel de Sankokai ou que vous allez reconnaître qui que ce soit, quoi. C'est juste rien à voir. C'est nul à chier. Et je dis ça d'autant plus à la cool, quoi, que moi j'adore Sankokai, je vous ai déjà dit, hein, je me suis refait l'intégrale il y a des années. Et j'ai surkiffé, j'ai dit, oui, c'est très influencé de Star Wars et tout comme ça, mais intelligemment, enfin moi j'ai trouvé que c'était cool quoi. Intelligemment, j'allais dire, ouais, t'as un problème. Ah merde, je n'aurais jamais honte de mon amour de Sankokai, et quand je vois les purges qu'on a eues depuis, ouais, bah c'était bien meilleur que certains trucs. Que penses-tu du festival de Gérard May? Rien du tout, je connais très mal les festivals, hein, alors que ce soit Cannes ou Gérard May. Gérard May, je sais que c'est horrifique. Même quand j'étais gamin et que c'était Festival d'Avoriaz, ça me faisait un peu ni chaud ni froid. Enfin, quand il y avait marqué Prix machin, Festival d'Avoriaz sur les VHS dans les vidéoclubs, ou sur une affiche de film au cinéma, ça ne m'influençait pas des masses. Je me disais pas « Ouh !» Non, j'y allais de toute façon si j'avais envie de voir le film, ou pas, si ça ne me branchait pas. Les festivals, j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur, peut-être que j'ai une grosse merde, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins populaire qu'à une époque. Est-ce que c'est la faute à Internet, aux plateformes de streaming maintenant? Je dirais pas que c'est tombé en désuétude, mais j'ai l'impression... Mais même les festivals aux États-Unis, hein, Sundance, ces trucs-là, là, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup moins parler, que c'est beaucoup moins un événement, je veux dire, qu'un film, un prix, ou des trucs comme ça. Par exemple, si on me demandait... Le festival de Gérard May l'année dernière, c'était quoi, machin? J'en ai aucune idée. Mais aucune. C'est même pas quel film il y avait, sélection. Aucune idée. Est-ce que tu aimes Joy Division? Et est-ce que ça a pu être une source d'inspiration? J'ai découvert sur le tard et j'aime beaucoup. Je n'aime pas Joy Division, c'est vraiment des trucs honteux. Voilà. Je m'en vante pas, je veux dire. Hein. J'ai conscience que c'est pas bien de dire ça. Et est-ce que ça peut être une source d'inspiration? Alors absolument pas, parce que donc du coup j'ai dû écouter un ou deux titres quand j'avais quand j'ai découvert Cure, Sisters of Mercy, enfin voilà, vraiment jeune. Hein. Et j'ai pas aimé, donc j'ai pas insisté. Et après quand quelques potes me faisaient écouter, mais je suis même pas sûr. Je pense à mon pote Hervé qui était très très fan de Cure et qui était le plus cultivé de nous deux sur cette scène-là, c'est-à-dire vraiment de voilà, gothique quoi. Je suis même pas sûr qu'il était très fan lui-même de Joy Division, Hervé, tu me diras dans les commentaires, mais j'ai pas souvenir qu'il insistait par exemple là-dessus ou que voilà. Ce que je peux dire, c'est que j'ai préféré New Order au niveau des chansons, etc. J'aime bien New Order par contre. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Alors, inspiré, pas du tout, du tout, puisque j'accroche pas. Hein. Mais même les quelques tubes, j'entends que c'est bien. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que Joy Division c'est de la bouse. Hein. Et de toute façon, il y a tellement de groupes que moi j'adore et qui ont été influencés par Joy Division que voilà. Mais ça ne me force pas à devenir moi fan de Joy Division, c'est ça que je veux dire. Que penses-tu de l'adaptation de Reanimator de Lovecraft? Jeffrey Combs est un acteur que j'adore. Alors j'adore aussi Jeffrey Combs, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en JDV, je n'aime pas du tout Reanimator parce que c'est une comédie, en fait, simplement. Donc Lovecraft n'a pas écrit d'histoire rigolote. Voilà. Donc moi, parmi les trucs qui me font perdre mes nerfs au niveau des adaptations, même très très libres, hein, de Lovecraft, parce que je rappelle qu'on n'a quand même jamais eu encore, hein, une adaptation fidèle, vraiment fidèle à un récit de Lovecraft, de mon point de vue, c'est mon opinion. Voilà, moi ça me pète les couilles, quoi. Donc Réanimateur, en fait, j'aimais bien. Je l'ai revu d'ailleurs il y a quelques années. Franchement, c'est sympa, c'est drôle, quoi. T'es morte de rire en bouffant des chips. Mais moi, c'est pas ça que je veux d'une adaptation de Lovecraft. Moi, je veux un truc que tu regardes à minuit dans le noir et où t'es en PLS, quoi. Parce que quand tu lis Lovecraft, t'es en PLS, quoi. T'es jamais mort de rire. Donc, bref. Mais qu'est-ce qui s'énerve ? Voilà. Donc, j'aime beaucoup l'acteur, mais vraiment le Réanimateur, j'aime pas du tout. Enfin, puis pour moi, c'est pas un film d'horreur. Hein. C'est une comédie dégueulasse. Voilà, visuellement, c'est dégueulasse. Un peu comme. Merde, comment ça s'appelle ? Bad Taste. J'adore Bad Taste. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais ça, Bad Taste, par contre, je kiffe. As-tu déjà vu U-Turn d'Oliver Stone, un film que je trouve hyper sous-coté? Oui, oui, alors bien sûr, je l'ai vu à l'époque déjà. Et je l'avais revu plus tard. Mais je le connais pas très très bien. Enfin, j'ai le souvenir d'un thriller hystérique. Et vraiment, qui met un peu mal à l'aise. Enfin, pas mal à l'aise, mais un film fou et désespéré. J'en ai un très bon souvenir, par contre. Parce que je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais que je m'étais dit, je crois que c'est juste après Tourner, j'ai dit la merde. Je pense que c'est juste après. Et je m'étais dit, putain, Oliver Stone est vraiment il est dans une phase enragée. C'est un compliment pour moi. Hein. Voilà. Après, je crois que dans le film, il y a des flashbacks. Ça va à rien. Si vous devez faire un petit reproche. Moi, les flashbacks, déjà, ça me saoule. Donc voilà. Et alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu U-Turn, on a. Enfin, oui. Alors, sous-côté, c'est sûr, c'est certain. Le film, il est complètement oublié, quoi. Il y a un casting de dingue. Mais de dingue, de dingue. Sean Penn, évidemment. Nick Nolte, j'adore. Putain, Billy Bob Thornton, qu'on a actuellement dans Landman. John Voight. Et putain, j'en oubliais encore. Joaquin Phoenix. Mais la brochette de taré, quoi. Bon, alors par contre, on a Jennifer Lopez. Bon, bah, okay, bah, il fallait bien équilibrer un petit peu. Après, je suis méchant parce que, sincèrement, hein, Jennifer Lopez, elle s'en sort super bien. Donc voilà. Tu connais Stéphane Escher ? Alors, dans ce cas, tu connais Gros Zone, son premier groupe. Oh, putain, ouais, vous avez été plusieurs. Alors, figurez-vous que ma chérie m'a passé un savon en mode. Quoi ? Mais Gros Zone, je t'en ai parlé un merde de fois, je t'ai fait écouter plein de chansons. Ah, ok. Voilà, donc je ne savais pas, mais je connaissais sans connaître. En tout cas, mon épouse connaît. Et apparemment, il y a quelques chansons qu'elle kiffe, même si j'ai cru comprendre que pas tout, hein, loin de là. Moi, je vois toujours pas ce que c'est, hein, donc non, je connaissais pas et je connais pas Gros Zone, je n'ai jamais, même le nom Gros Zone, enfin, non, me dit absolument rien. Alors oui, par contre, donc vous avez été plusieurs, mais c'est des messages en me disant, mais c'était le groupe dans lequel était Stéphane Escher avant qu'il se lance en carrière solo et fasse de la pop. Française, classique, enfin voilà. Donc, alors autant Stéphane Escher, je connais très bien, c'est le mec qui voulait déjeuner en paix, qui se demandait combien de temps, je sais plus quoi. Mais alors effectivement, j'avais pas vu venir du tout, enfin quand je pense à Stéphane Escher, je ne pense pas du tout. Un truc goth, new wave, mais tellement pas quoi. Donc c'est intéressant, enfin du coup, effectivement, comme parcours. As-tu déjà regardé la série Les Sopranos? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Je l'ai découverte il y a un mois, ah waouh, j'ai adoré chaque instant, si bien que pour moi c'est LA meilleure série de tous les temps, tant elle a posé les bases de ce que devait être une série. Ça va être révolutionnaire de voir ça à la fin des années 90. Moi j'ai beaucoup aimé, mais putain j'ai honte, hein, mais je crois que j'ai décroché avant la fin de. Je crois que j'ai pas vu toutes les saisons. J'ai beaucoup aimé le début, enfin, voilà. Après oui, c'était un phénomène. Alors, les années 90, c'était un énorme phénomène. Mais je sais pas à quel moment et ni pour quelle raison, ça par contre je m'en souviens pas, je me suis décroché du truc. Je me suis détourné de la série, alors sans l'avoir fini, je veux dire. Je parle de ça en temps réel, je veux dire qu'il y a un moment où il y a une saison qui est sortie et je sais pas, j'étais plus dans le mood peut-être. Et voilà, bref. Mais oui, oui, alors par contre, alors t'as tellement raison, parce que dans le ton notamment, c'était ultra nouveau quoi. Et ça, il y a eu un avant et un après. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a énormément de séries sans les Sopranos. Enfin, sans le triomphe des Sopranos, elle n'aurait jamais été financée, même déjà, voilà, tout simplement. Et on arrive au question MJ que j'ai regroupée à nouveau. Ah oui, alors celle-ci elle était un peu longue, tu m'excuseras, je me suis permis de condenser un tout petit peu. Sur l'album Invincible, le problème c'est la production et les sons, même s'il n'a pas assez composé et n'a pas sélectionné les meilleures chansons, les mélodies sont là. Il voulait Dr. Dre, il avait compris que c'était le mec qu'il lui fallait, mais Dre a décliné parce qu'il voulait un artiste qu'il puisse façonner, et avec Michael, il n'aurait pas pu le faire. Mais il faut imaginer les sons de Dr. Dre sur l'album Invincible, ça aurait pu être monstrueux. Et ce que Michael, pardon, aurait dû faire, c'est 50 Cent plus tard qui le fera, et Dre avec Snoop, et c'est dommage. C'est un acte manqué, contrairement à Dangerous et Bad et Thriller, où les sons ne seront jamais démodés. Là, la prod était catastrophique, et puis il y a trop de comptines sur cet album. Et puis ça fait un peu aussi album à formule, avec la chanson type Paparazzi, la chanson avec les chœurs comme à l'église, façon gospel, etc., etc. Bref, les problèmes sont multiples. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur énormément de points. Les arrangements, ça ne va pas du tout, de mon point de vue. C'est subjectif, évidemment. Mais je le pense très 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 fort. Au niveau de la prod et des sonorités, j'ai même envie d'inclure Off The Wall, hein, mais les albums de Michael Jackson n'ont pas vieilli, ne vieillissent pas. C'est complètement dingo, quoi. Invincible, oh, ça pique, putain, les sons rythmiques et tout, c'est horrible. Je trouve que ça vieillit extrêmement mal. Néanmoins, c'était de toute façon un style que je n'appréciais pas. Je dois avouer que j'aurais adoré que Dr. Dre il glisse des sons de sa patte, quoi. Mais en même temps, je suis pas certain que ça se serait super bien passé. J'avais vu une interview de Dr. Dre où il expliquait qu'il avait décliné des invitations à produire certaines chansons. Je crois pas qu'il était question de tout l'album Invincible. Mais voilà, il aurait au moins fait quelques titres. Il avait décliné l'invitation de Michael et également celle de Prince. Alors, sa raison, c'était officiellement, hein, ce que lui il dit, c'est que c'était des idoles pour lui et qu'il ne voyait pas ce qu'il pouvait leur apporter. Et que par ailleurs, ils avaient déjà leur univers bien installé, quoi. Voilà. Pour moi, c'est des raisons que je comprends pas. Je capte pas du tout ce truc-là. Je sais pas pourquoi il a décliné. D'autant que il a donc dit non à Prince et Michael Jackson, mais il a dit oui à Gwen Stefani. Enfin, je sais pas. Après, franchement, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, mais je suis quand même globalement d'accord. Oh là, ce JDV annonce extraordinaire. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis moins impressionné que toi, visiblement, par la qualité des compositions tout de même. Donc je maintiens que, t'as que deux chansons de Michael sur 16, il y a un énorme problème. Parce que les autres, bon, il est au crédit, mais il est très loin d'être l'auteur-compositeur unique, ni même parfois majoritaire. Et ça s'entend, je trouve. On est vraiment dans des trucs, je sais pas, pour moi, c'est pas au niveau. Même les compos, c'est pas au niveau du tout, quoi. Et puis c'est trop, alors là je suis d'accord, c'est aussi la bonne formule. Moi, par exemple, une de celles que j'aime bien, c'est Threaten. Mais bon, c'est la petite fille de Is It Scary, de Ghost. Enfin, c'est tellement pas original. Alors, les textes, c'est vraiment la loose, quoi, les textes. Et ça le fait avec pas mal de chansons, qui sont des... T'as l'impression des restes, en fait, ou des copies, en fait, déclinées, à peine déclinées, de précédentes chansons de Michael et de chansons de... Ouais, même Blood on the Dance Floor ou History, mais enfin, je sais pas, ça, on était en fin de course au niveau de l'inspiration, je pense, très très clairement. Mais les sons, c'est terrible. Enfin, je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment beaucoup Invincible, mais après, elles sont souvent suffisamment honnêtes pour avouer que, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, ceux que j'ai vus défendre Invincible, notamment sur YouTube, c'est des gens qui après avouent que c'est par cet album-là qu'ils ont ou découvert Michael, ou c'est le premier album dont ils ont vécu la sortie. Donc, ils sont pas objectifs, en fait. C'est des bons souvenirs personnels et tout machin. Quand tu parles d'état de sidération, lorsqu'on avait la chance de voir Michael sur scène pour leur vécu, oui, l'effet produit par cet artiste lorsqu'il apparaissait sur scène était phénoménal. La toute première fois pour le Bad Tour, j'avais 15 ans. Ah, c'est un message de Stéphane Mialet que j'ai recopié parce que je trouve magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux, la gorge nouée pendant les 4 premiers morceaux, tellement j'étais en état de choc qu'il soit juste là, en vrai. Ça peut paraître complètement bête, mais j'étais vraiment dans un état second. Et rebelote pour le Dangerous Tour à Vincennes, où j'étais cette fois tout devant, sans avoir ni bu ni mangé de la journée. Tu devais être bien fébrile, j'avais mal partout, j'étais épuisé, et quand Michael est apparu sur scène, tout cela a disparu, il était là, assez près, en plus j'étais hypnotisé par sa stature, sa beauté, quand l'irréel devenait la réalité dans le cerveau, c'était assez particulier à analyser. J'étais seul devant lui au milieu de milliers de personnes, les petites précisions, mais il était statique pendant plusieurs minutes, ah oui, bah là, je vois très très bien. J'ai vu d'autres artistes sur scène avec énormément de charisme et ou de mystère, c'était souvent impressionnant bien sûr, mais jamais, au grand jamais, je n'ai ressenti cette électricité dans l'air, ce sentiment d'irréalité avant et à l'apparition d'un artiste, comme ce fut le cas à chaque fois avec Michael Jackson. Un message que Stéphane a posté et que j'ai trouvé absolument magnifique et que je comprends tellement. Enfin, c'est exactement. Alors, on a le même. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais on a la même analyse. Voilà ce que je veux dire. Est-ce seulement imaginable aujourd'hui de revoir deux musiciens du calibre de Michael Jackson et Prince, des auteurs, compositeurs, interprètes, multi-instrumentistes, avec pour Prince un génie musical et un immense guitariste, et pour Michael Jackson un génie de la danse, de la chorégraphie, de la composition et du clip musical. Honnêtement, je pense que dans la pop contemporaine, nous ne reverrons plus jamais des artistes du niveau de ces deux personnalités. Je suis entièrement de ton avis, et ce n'est ni être réac, ni être nostalgique ou machin. Et d'ailleurs, je vois énormément de jeunes artistes qui font ce constat-là. Je pense qu'à un moment, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et je pense aussi, et ça joue hein, également, je pense que l'époque ne permet plus l'émergence, d'artistes comme Michael Jackson et Prince. Le fait que Internet a tout défoncé, le fait que les jeunes découvrent les chansons sur TikTok, un milliard de choses qui ont changé dans l'industrie et la façon de communiquer des œuvres artistiques musicales, l'absence d'MTV aussi, enfin tout ça, enfin l'absence d'MTV en média principal de diffusion, quoi, je veux dire, hein, évidemment. Bref, je pense que ça n'aura plus jamais lieu. Et je pense également que de toute façon, ça n'engage que moi, c'est vraiment pas demain la veille, et moi je pense que ça n'arrivera pas, tout simplement, que deux artistes dans la pop, hein, pop rock, tout ça, fassent preuve en fait d'un talent, et c'est pas juste le talent, hein, c'est l'empreinte. C'est qu'à un moment tu rebats toutes les cartes, et en fait il y a un avant et un après toi. C'est ça qui s'est passé avec Michael Jackson et Prince. Je pense que ça s'est passé pour les artistes féminines avec Madonna, c'est même certain. Il y a un avant et un après Madonna, pour les chanteuses, je veux dire. Madonna, je pense, a eu beaucoup moins d'influence sur la musique, la musique en règle générale. Elle a eu une influence énorme, mais beaucoup moins importante dans ses conséquences, ses effets, que Michael Jackson et Prince. Après, c'était quand même deux ovnis, hein, les deux, de façon très différente. Et comme tu le dis très justement, voilà, Prince était un génie, en plus, alors multi-instrumentiste, je crois qu'il jouait d'une vingtaine d'instruments, enfin 5-6, à la perfection. C'est un immense guitariste, puis un immense pianiste, puis un immense batteur. Il y a des gens qui l'ignorent, mais des fois il nous faisait des démonstrations, c'est assez impressionnant. Et Michael, c'est complètement fou. Pour un artiste qui ne jouait pas d'instrument, alors je sais qu'on a des échos, notamment Quincy Jones, comme Michael Jackson jouait du piano, mais je pense qu'il jouait du piano, mais pas au niveau d'un Prince, par exemple. et qui faisait tout à l'oreille et à la bouche. Je trouve ça incroyable, incroyable, d'autant que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies notamment l'oreille absolue, bien évidemment, mais également que tu... C'est-à-dire que là, il y a des gens qui disent, ouais, la beatbox. Alors oui, la beatbox, quand Michael faisait la beatbox, putain, tu peux vraiment être habillé. Mais lui, ça ne se limitait pas à ça. Il te faisait tous les instruments. Mais et avec le bon tempo. Enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Du génie. Enfin, vraiment, effectivement. As-tu vu l'interview de Michael Culkin qui expliquait sa relation fusionnelle avec Michael Jackson? J'ai vu beaucoup d'interviews et lu beaucoup d'interviews de Michael Culkin durant toute sa carrière, en fait. Là, je sais que ça fait quelques années où il en a vraiment ras-le-bol, parce que forcément, à chaque fois, on lui pose la question. Et comme il l'a dit d'ailleurs il n'y a pas ultra longtemps dans un très grand magazine, merde, il a donné une longue interview dans un immense magazine américain, où il explique que il n'est pas idiot et qu'il sait très bien que toute sa vie, les personnes qui lui ont dit « Mais alors, ta relation avec Michael, tous les deux, votre complicité, etc. etc. » Il sait très bien que les gens, ils veulent entendre des trucs choquants, dégueulasses, des trucs inappropriés, etc. Lui, ce qui est important, c'est que Michael Culkin a été témoin d'abus, de choses comme ça. Et il a croisé les prédateurs, évidemment. Donc à un moment, ajouter Michael à la liste, ça change que dalle pour lui. Et non, donc il a toujours expliqué. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il se contente pas de dire non, Michael n'a jamais rien fait, ne m'a jamais rien fait, etc. Il dit qu'il a été à énormément de soirées, de nuits, enfin, puisque c'est voilà, les nuits où ils mettaient des films, ils faisaient des jeux, enfin, c'est comme des booms de gamins. Hein. Alors oui, Michael était un adulte, ça peut choquer, mais lui confirme qu'il ne s'est jamais rien passé, et que souvent il était présent avec beaucoup d'autres enfants, et qu'il n'a jamais vu un seul geste chelou de Michael envers même un autre enfant, quoi. Et d'ailleurs, les quelques accusations qui ont été faites par ces quelques raclures à vide d'argent, là, y compris récemment, ces gens-là, pour certains, Michael Culkin les a défoncés parce qu'il était là dans les soirées où les autres disent qu'ils ont été abusés. Et Michael Culkin dit, non seulement j'étais là, mais en plus, on t'a pas quitté des yeux. Enfin, jamais tu t'es isolé avec Michael. On était tous ensemble et tu t'es barré après avec tes parents, quoi. Donc, tu mens. Enfin, c'est... Vraiment, il n'y a même pas de suspense. T'es juste un gros menteur. Et puis, il y a eu d'autres interviews où il a vraiment développé ce que lui-même, ça lui faisait, de voir ses mensonges, ces trucs-là, et qu'il était dégoûté. Ça fait plaisir, évidemment, quand tu fais partie des gens qui ont un peu la tête sur les épaules et qui... voilà, moi, une fois de plus, hein, enfin, mais j'ai toujours répété, si un jour, il y a une preuve qui jaillit et machin, je serais effondré, mais je vais pas... Enfin, ça va même pas me traverser l'esprit de me dire « Comment puis-je être dans le déni ?» C'est pas ma nature, quoi. Donc, voilà. Mais là, la lucidité, c'est de voir un mec qui a été victime de tentative d'escroquerie. Et sincèrement, quand tu étais Michael Jackson durant son règne, hein, parce que voilà, ça n'a rien d'étonnant. Mais rien d'étonnant. Je rappelle d'ailleurs que, je sais plus c'est lequel ses avocats qui avaient raconté que Michael Jackson était attaqué, accusé chaque semaine de toute sa vie. Hein. Sur n'importe quoi, cette chanson elle est de moi, ouais il m'a tripoté, n'importe quel sujet. Parce qu'il a tiré l'attention et c'était une proie facile pour les gens, mal intentionnée évidemment. J'ai une question à te poser Alex, car je me la suis posée souvent et c'est la suivante. Penses-tu que Michael Jackson était heureux, l'a-t-il jamais été? C'est une question que je me pose souvent également, enfin pas souvent mais que je me suis déjà posée. Et j'avoue penser que Michael a été extrêmement heureux, je peux pas dire heureux, mais je pense qu'il a eu beaucoup de moments de bonheur, je pense, dans ses jeunes années. Alors ses jeunes années, attention, je ne parle absolument pas de son enfance évidemment. Je parle de entre 19 et 26 ans, 27 ans. Voilà, pour moi, la trilogie of the Wall Thriller Bad, il est clair, enfin on le voit, que Michael a eu beaucoup, beaucoup de très bons moments, des moments où il était très heureux, on pourrait dire. Mais c'était un bonheur d'instant, je pense. Hein. D'ailleurs, il y avait une interview de Freddie Mercury qui était assez intéressante où il parlait de ça. Parce que Freddie Mercury, à plusieurs reprises, a été proche de Michael et notamment essayé un peu de le faire, de le libérer de cet étau dans lequel il s'enfermait. Enfin, genre il se barrait faire les cons en bagnole, des déguisements. Enfin, et je crois donc oui que Michael a eu des moments de grand bonheur, notamment voilà des moments où son talent, enfin tout ce pourquoi il s'était battu était porté ses fruits, était récompensé. Là, oui, on voit même quand il parle, enfin sur les images d'archives. On sent qu'il est tout fou, enfin, c'est ultra touchant, quoi. Il est là, je pense qu'il est vraiment heureux, quoi. Mais ça ne dure pas, évidemment. Ça ne dure pas. Et je pense que sa nature, c'était pas une nature heureuse. Je pense que... on peut me gourer, hein, c'est juste mon opinion. Mais je pense que Michael était quelqu'un qui, comme toutes les personnes un peu trop sensibles, Michael était vraiment à fleur de peau, je pense. Enfin, ça, je pense, c'est l'avis de beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, hein. Il était très facile de le vexer, de le peiner, et il pouvait se montrer très rancunier, enfin, mais pas parce que c'était un con, parce qu'il avait été blessé en fait, de façon démesurée, parce que c'était sa nature. Et je pense que ces gens-là, souvent, c'est un peu comme les gens qui ont une intelligence artistique trop développée et qui sont un peu plus fragiles. Je pense qu'il a été souvent mélancolique et malheureux. Je comprends. En fait, pour moi, ta question elle a vachement de sens. Faudrait développer longuement et c'est pas le truc pour quoi. Mais je pense qu'il a beaucoup. Alors sur la deuxième partie, les dernières années de sa vie, je dirais même de 40, enfin les 10 dernières années de sa vie, je pense qu'il a surtout été extrêmement malheureux et qu'il ne s'est jamais remis des coups qui ont été portés par les accusations et la haine. Parce qu'il y a eu les accusations, c'était pas le seul à être accusé de saloperie alors qu'il avait rien fait. Mais c'est surtout que une énorme partie de la planète en fait, a juste saisi la perche en disant « Ah yes, on va pouvoir lui dégueuler dessus, parce que de toute façon, on l'aime pas ». délit de faciès, d'attitude, bref. Je suis à fond dans la période air metal et j'ai profité de mon voyage au Japon pour rapporter quelques pépites. Night Ranger, Raven, Danger Danger, Autographe, Great White, Lita Ford, Rat, Fastway, Hanoi Rocks, King Cobra. Putain, King Cobra. Stone Fury. Je me rends compte qu'il y a tellement de pépites à découvrir encore. Alors ouais, c'est un puissant fond, le heavy metal des années 80. En tant que passionné des années 80, tu as d'autres groupes dans le même délire à me conseiller. Alors oui. Mais il faut que tu... Parce que là, j'ai pas... il faut que tu ailles regarder ma vidéo « Le heavy metal et moi ». Qui est, je crois, dans ma playlist « Ma vie... » Je sais plus comment j'appelais ça. Où je cite énormément de groupes et où je passe en revue tous mes CD de heavy metal. Et là, tu vas découvrir énormément de groupes que tu n'as pas cités. Vain... Enfin, mais plein. De toute façon, je vais pas commencer. Mais plein de groupes. Il faut vraiment que tu ailles regarder et prendre des notes. Mais tout est là-dedans, c'est la vidéo où je parle du heavy metal des années 80 et de mon amour fou pour ce mouvement. Lors du feuilletage du magazine, on peut apercevoir ta superbe moquette. Ouais, c'est vrai. Ma question est la suivante. La considérerais-tu comme blanche mouchetée de gris ou grise mouchetée de blanc? Ah, putain. Une question de bâtard, ça. Je dirais... Non. Parce que j'en ai vu des blanches. Des blanches mouchetées de gris, et c'est très beau d'ailleurs, mais vraiment ça fait peur des taches. La mienne elle est clairement grise, je choisis grise mouchetée de blanc. Voilà, et voilà, pour avoir déjà renversé les trucs dessus et nettoyé évidemment, je pense que ça passe parce que c'est la dominante est grise. Voilà. Je l'adore, hein. Tout le monde se fout de ma gueule, mais j'adore cette moquette. C'est moi qui l'ai choisi, hein, je précise, hein. Quand j'ai emménagé, évidemment, avec ma chérie, il n'y avait pas du tout ça. Regardez-tu le dessin animé Le Comte Mordicus, fin des années 80? Absolument pas fin des années 80, j'étais beaucoup trop vieux pour regarder des dessins animés. Et je vois même pas ce que c'est. Alors, je suis allé googler, j'ai vu un visuel, mais il ne me dit rien du tout. Donc, aucun souvenir, je ne suis même pas tombé dessus par hasard, tu vois, ça aurait pu... Mais non. Va-t-on voir un jour un journal de vlog avec ta chérie? Non. C'est le journal de vlog, c'est Alex de la Fuite en vidéo. Enfin, c'est non, c'est pas un refus, hein, mais genre, voilà, je vous présente. À une époque, moi, j'avais eu des idées de, pas de sketch, mais de trucs où elle apparaîtrait, etc. Mais après, les youtubeurs qui font ça, c'est que des. Après, c'est des réflexions. Il faudrait aussi qu'elle en ait envie, tu vois, tout simplement, qu'elle ait envie de s'exposer à ma communauté, etc., etc. Quelles sont les meilleures performances de l'actrice Barbara Stanwyck, selon toi? Alors, attention, parce que moi, j'ai pas forcément noté les films où je trouve qu'elle est la meilleure au niveau de sa performance d'actrice. C'est mes films préférés, où elle joue. C'est une actrice que j'adore, j'aurais adoré cette actrice. Donc, j'ai noté celui qui n'existait pas. Donc, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est pas son jeu, c'est pas le plus spectaculaire de sa carrière. Mais ce film, je sais pas, il y a une ambiance, côté un peu kitsch, enfin, et puis en même temps un peu malsain. J'adore ce film. J'ai noté également dans mes préférés L'homme de la rue. Alors Assurance sur la mort, celui-là c'est vraiment dans mon top. Après c'est pas comment dire, même sur celui qui n'existait pas, elle joue pas mal, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que son rôle n'exige pas des performances, bref. J'ai mis La Horde sauvage, parce que La Horde sauvage, c'est là par contre, waouh, elle crève l'écran complètement. La Horde sauvage et mais c'est pas, tu vois, La Horde sauvage, c'est pas, bah, aussi parce que c'est un western, c'est pas dans mon top à moi, tu vois, de mes films préférés avec elle. Mais j'ai noté, j'ai conscience que il y en a pas mal qui vont faire des bons, quoi. Mais j'ai noté L'homme à tout faire avec Elvis. D'abord parce que j'aime beaucoup ce film, voilà. Un peu plaisir coupable là, par contre. Et j'aime beaucoup la façon dont Barbara Stanwyck joue dans ce film et son rôle, même sa relation avec Elvis. Enfin, j'adore l'ambiance, en fait. Voilà. Donc je voulais l'inclure, mais j'ai conscience que c'est dans les meilleurs films. Joues-tu aux jeux vidéo sur un temps libre? Et si oui, sur ton temps libre, tu veux dire? Et si oui, connais-tu le jeu qui normalement devrait sortir cette année? Squadron 42, j'imagine. Jeu solo avec plein d'acteurs hollywoodiens. Ah waouh, non, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Écoute, comme je ne joue pas aux jeux vidéo par faute de temps, mais alors tu vas me dire, bah, si tu veux, tu le trouves le temps. En fait, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, hein, tout ça, je l'ai déjà dit, il y a très très longtemps. Ma dernière console, c'était la Super NES. NES, Super Nintendo, et Mario Kart et tout. Oh, je sais plus c'était lequel des Zelda. Mais j'adorais jouer. Le problème, c'est que chaque partie, c'est 5 heures, 6 heures. Enfin, moi, je peux pas jouer une heure ou deux. C'est ultra frustrant, quoi. Et pendant ce temps-là, je regarde pas de films, j'écoute pas de musique, je lis pas de bouquins. Et en fait, j'ai juste fait un choix, mais il y a longtemps, hein, quand j'avais la vingtaine, en me disant, les jeux vidéo, ça va me bouffer ma vie parce que je ne sais pas doser, tout simplement. Et je préfère, en fait, je préfère regarder des films, lire des livres, écouter de la musique, ou créer des trucs, enfin bref, écrire à l'époque, plutôt que de jouer. Donc du coup, je me suis auto... c'est comme les joueurs de casino, qui se font interdire, hein, voilà. Donc je me suis auto-interdit de jeu. Et voilà, c'était la dernière question sélectionnée. Je vais donc m'arrêter là et vous laisser avec le feuilletage de quelques magazines. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes en présence d'un nouveau numéro de vidéo 7 avec Eddie Murphy en couverture. Cette fois-ci, on est en mars 88 et on est passé donc des 12 francs que coûtait le magazine en 83, je crois, à 20 francs. Ça rigolait plus du tout, quoi. Et alors là, le titre me choque. Je le dis franchement. Ah là, putain, là, c'est, on sent que c'était une autre époque. Voilà, il y a bon les blacks. Les noirs jouent et gagnent. Alors bon, ça se veut humoristique, positif, mais putain, il y a bon les blacks, c'est pas possible, quoi. Même pour rire, hein. Magnifique double page pour pas du tout des cigarettes. Juste des briquets. Des briquets camel. C'est bien, connu les briquets camel. Mais si, c'est très connu. Et avec des films évidemment dont je n'ai aucun souvenir, David Carradine, ce marathon, je ne sais pas. Franchement, oh putain, les trucs complètement obscurs, j'imagine italien de je ne sais quoi. Videlec vidéo, Paris, Lille, Lyon, Marseille. Angel Heart. Putain, sérieux. Bon là c'est limite, je crois que ça passera, mais. Oh là, la vidéo 7, c'était compliqué, hein. compliqué. Oh, cher. Qu'est-ce que je suis calme et poli. Oh, Mylène. Qu'est-ce que je suis calme et poli quand je voyais la vidéo 7, dis donc. Hein. C'est beaucoup moins la rigolade que quand c'est des trucs d'ado. Hein. Rocking Chair. Elle est à l'affiche de deux films en l'espace de 3 semaines. Cher est devenue une véritable comédienne. Masque, ici. Alors, Masque. Chef-d'œuvre, Moonstruck, chef-d'œuvre que j'ai revu d'ailleurs il y a même pas un mois. Et alors je sais pas c'est quoi le troisième du coup. Il le cite pas. Bon bref. Mais oui, comédienne incroyable. Moi j'ai toujours, enfin j'adorais sa voix, mais ses chansons bof quoi. Mais une voix grave, somptueuse et mais c'est surtout en tant que comédienne que je suis fan, ultra fan même. Les nuls. Black Micmac, ouais, ça continue la rigolade, les dinos, putain, eh mec. Aïe, 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 bon, je vais me refaire un café, je crois. Ou pas, en fait, non, plutôt pas. Voilà, donc là, on comprend bien la thématique de l'article, hein, là, Richard Pryor, Mr. T, Chris Jones, Whoopi Goldberg, Michael, bref. Farrah Fawcett, ok. Hey Golden Child, putain qui sortait. Max Headroom, c'est vrai qu'il y a eu un film Max Headroom, j'avais oublié. Ouh, Howard the Duck, 3 étoiles à Howard the Duck. Oh putain, Tin Man, dont je vous ai fait une vidéo Reco Express ou je sais plus quoi là. Une de mes comédies américaines préférées ever. Voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous êtes vilain, tout simplement. Avec Richard Dreyfuss et Danny DeVito, mais oh là là, mais tellement bon, incroyable. Oui, je suis passé un peu rapidement sur Freddy Krueger. Freddy 3, les griffes du cauchemar, 3 étoiles. Attends. il donnait la même note à Freddy 3, donc c'est Dream Warriors. Katyn Men, un chef-d'œuvre de Barry Levinson. Oui, je sifflote pour me détendre. Magnifique, ça, voilà, typiquement le genre de pub que j'adorais. C'est beau, j'adore. Enfin, la photo est magnifique, tout le design, je trouve que c'est somptueux.
notre mon professionnalisme, j'allais redire magnifique, mais non, il faut pas la répétition, c'est pas bien. Hein. Donc, voilà, j'ai trouvé un petit synonyme rapidos et surtout discretos, je crois qu'on peut le dire. A Truck Stop California, donc, oula. Attendez, vous voyez bien avec le reflet, non, peut-être pas. Combat de boue, hein, donc, pour ceux qui n'auraient pas bien vu. From America, je ne sais pas trop ce que c'est, de New York à Los Angeles, tous les potins du show business. Ouais, bah ok, pourquoi pas. À la poursuite des billets verts. Oh putain, monsieur de l'humour. Michael Douglas, vraiment un acteur que je surkiffe. Le nombre de films avec Michael Douglas que j'adore pour sa performance. Hein. Ah la putain mammouth, la vache. Avorias 88 avec Robocop. Ski vidéo.
Oh merde.
Ah et là je pense qu'on va arriver en zone danger. Ouais voilà, clairement. Non. C'est niet là. Je peux pas. C'est joué quand on ferme ma chaîne. Et une publicité, pas du tout pour les cigarettes, enfin. C'est pour les allumettes. Achète-toi des lunettes. Les allumettes, putain, je te fais zinte. Voilà, c'est comme les briques camel, tu vois. C'est, ben oui. Et voilà. Nous sommes en présence d'un numéro de Boys and Girls. Ah non, Boys et Girls. Putain, je me trompe à chaque fois. C'est pénible, c'est incompétence, putain, merde. Sorti fin mars 84 avec donc évidemment Michael Jackson en couverture, sinon je ne l'aurais jamais acheté à l'époque, je veux dire, parce que tout ça c'est des trucs évidemment que j'ai acheté à l'époque, hein, que j'ai juste récupéré, mais bon, 600 fabuleux cadeaux, le blouson Michael Jackson, alors je doute très très fortement qu'il faisait gagner le vrai blouson que je possède d'ailleurs, de Michael, qui coûtait quand même une fortune. Je pense qu'il faisait plutôt gagner des copies bas de gamme. Noah, jeune marié, waouh! Indochine en Europe, Billy à 14 ans, mais c'est gay, putain, c'est fou, hein, je me souviens pas. Véronique Jeannot chante en duo, Sean Connery, l'homme de l'année, Boy George, Latoya, nouveau couple, oui, bien sûr, mais oui, mais si. Michel Drucker, romancier, bref, c'est passionnant. Mais presque, je croyais à l'amour. Alain refusait de croire que Linda voulait l'aimer, mais elle savait qu'il aurait bientôt besoin d'elle. Oh là là, ça m'a l'air tellement épique. On va passer quand même. Hein. Donc, super concours avec de magnifiques photos sur le clip de Thriller. Biographie truquée de Michael Jackson, qu'est-ce que c'est que ça? Voici en quelques lignes une biographie truquée de ton idole. En la lisant attentivement, tu t'apercevras que nous y avons glissé 7 erreurs. À toi de faire preuve de perspicacité et de rétablir la vérité. Première question, vrai ou faux? Non, c'est pas fifou, hein. Et alors les cadeaux, ouais non, bah, en fait c'est encore pire, ils te montrent des trucs, oula ok, d'accord, ouais, ok d'accord, donc là en fait non, ah putain d'accord, alors ils sont quand même plus honnêtes que ce que je pensais, parce qu'effectivement on n'est pas du tout sur le fabricant américain du véritable blouson pour Michael Jackson, et qui a également eu le droit de les vendre au public, donc c'est comme ça que moi j'en ai un. Là on est sur un modèle recopié exclusif pour notre gagnante par la maison Japa, donc c'est, voilà, donc c'est une copie de merde. Marc, je ne sais pas, Kobali, vois pas du tout, rocker avant l'heure, certains sont des musiciens, quoi qu'ils fassent ou qu'ils aillent, le moteur de leur existence se résume à ce simple mot, la musique. C'est le cas de Marc Tobali, même avec ta typo Alchemy là. Qui du Maroc aux États-Unis en passant par Paris a toujours considéré le rock'n'roll. Non, mais c'est une blague. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est chaud, elle me menace. Elle me suivait partout, la confidence de la semaine. Oh, ça a l'air terrible. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas la fête. Pourquoi les garçons sont-ils comme ça? Mais je ne sais pas. Donc voilà. Valérie Caprisky, avec des photos d'un goût esquis. Les ennemis de la beauté. Ah, les ennemis de la beauté. Alors, c'est la cigarette, hein, le manque de sommeil, les grignotages, les produits de mauvaise qualité. Ah bon ? Et une hygiène irréprochable. Hein ? Non, ça, c'est pas un ennemi de la beauté, l'hygiène irréprochable. Oh merde, putain, c'était vraiment n'importe quoi. Encore un roman photo, voilà, c'est. Girls, c'était vraiment les trucs des romans photos. J'en avais pas, je m'en souvenais pas trop parce que bah, je jetais. Hein. Moi, je découpais les trucs de Michael et puis je jetais le reste, évidemment. Il était une fois Charles Bronson. Alors, tenait-il vraiment un numéro de Girl ou est-ce que c'est un montage? J'en sais rien. J'ai pas l'impression que c'est un montage. Hein. Ah bah non, lors de son voyage à Paris, Charles Bronson a rencontré l'équipe de Girls. Il a dû. Franchement, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Ah ouais, je me souviens quand j'étais en France en 1984, j'avais rencontré l'équipe de ce magazine extraordinaire Girls. Mais ta gueule, Alex. Risky Business, ça c'est cool par contre. Voilà. Chef d'œuvre intemporel, mais je vous en ai suffisamment parlé. La carte d'identité d'Alain Delon, dis non. Je pense que c'était fait dans son dos, hein, parce que vraiment, c'est quand même très personnel ta carte d'identité. Là par exemple, tu vois, il y a des informations, je suis pas certain qu'il avait très envie que ce soit dévoilé au public, tu vois. Par exemple, les sports qu'il affectionne, je sais pas, c'est très privé, quoi, c'est un truc super privé. Est-ce que tu as vraiment envie que ce soit révélé, les sports qu'il affectionne? Bah voilà, on sait désormais, alors bon, il n'est plus là, hein, donc ça, on peut le dire. Hein. Le ski, l'équitation, la boxe et également le rugby. Bah écoute, c'est quand même, c'est chaud quand même. Alors, ses hobbies, oh putain, c'est drôle. Là, on voit qu'on est dans les années 80 et que, en fait, rien ne choquait personne. Ses hobbies, collectionner les armes à feu et les tableaux anciens. Ah merde, je trouve ça excellent. Ses défauts, la jalousie, un penchant pour la solitude, les sautes d'humeur. Là, par contre, c'est incroyablement accurate. Hein. Effectivement. Si vous avez un problème, ouais, le courrier des machins, un cardigan branché, ouais, là, j'avoue. Hein. J'avoue que c'est très branché. C'est un peu trop, même, peut-être. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà, Japa, c'était ça, putain. Donc, c'est eux qui fabriquaient un faux blouson BTT. Ah, ça devait être une catastrophe. Je sais pas sur quoi ils se basaient pour les détails, les mesures, les machins. Ça devait être une. Je serais bien curieux s'il y en a parmi vous qui possède un blouson Japa. Imitation non officielle, donc, hein, parce que je pense qu'ils avaient aucune autorisation hein, de dupliquer, enfin, de copier le design du blouson de BTT. Aïe, 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 aïe. Eh ben, est-ce que c'était pas un pur régal? Bah bien évidemment que si.